l'étrange beauté du quotidien. Écoutez avec les yeux les vies extraordinaires de gens ordinaires.
Si d'habitude, c'est moi qui fais venir mon invité jusque dans les studios de la Radio Syllabe, si d'habitude, c'est dans ce même studio que l'on essaie de créer une bulle hors du temps, de saisir une intimité bien particulière afin d'ouvrir les portes d'une vie qui se dévoile, si d'habitude, les gens viennent à moi en quelque sorte, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est moi qui suis allée jusqu'à ma prochaine invitée. C'est moi qui ai fait entrer le matériel du studio directement dans son intimité à elle. Oui, je suis hors les murs et assez loin puisqu'au moment où je vous parle, je suis à Bilbao, au Pays Basque espagnol, dans la cuisine de celle qui va essayer de partager du mieux qu'elle peut ce qui la fait vibrer, rire, pleurer, rêver. Bref, de quoi est faite son histoire ? Je vous dis du mieux qu'elle peut. Car si elle a appris le français il y a longtemps, et si elle l'a même enseigné aux enfants, il va sûrement y avoir des moments où ressurgira soit notre langue bien à nous dans la famille, le francignol, soit sa langue maternelle, l'espagnol, soit sa langue de cœur, le basque. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire que pour toutes ces raisons, cette émission est très spéciale pour moi, mais aussi parce que, oui, mon invité d'aujourd'hui, c'est ma grande cousine de l'autre côté des Pyrénées. C'est la famille, quoi. Mais c'est surtout celle que je me suis choisie. Et ça, ça compte dans une vie, la famille que l'on se choisit. Je suis donc ravie d'être en ce moment même dans la cuisine de ma cousine. Bonjour à toi, Anna, et merci de m'accueillir chez toi.
Bonjour.
Tout d'abord, pour que les auditrices et les auditeurs sachent un peu à qui ils ont affaire, peux-tu nous dire en quelques mots qui est Ana Muñoz García ou Itziar Muñoz ou Ana Itziar Muñoz García?
Moi, je suis ta prime, ta cousine, et c'est la famille. Mais je suis une femme normale, courante, et en retraite. Heureusement, et maîtresse de profession et de cœur aussi, et avec de petits enfants dont j'ai beaucoup, beaucoup disfruté. Mais maintenant, je disfrute beaucoup, beaucoup, beaucoup sans les boire, sans les voir aussi.
Donc, disfruter, c'est du francignol, c'est profiter.
Ah. Bon.
Le principe de cette émission est toujours le même. Anna est là pour nous parler de son histoire, de ce qui l'a nourrie ou qui l'a fait avancer. Et cela à travers deux photos et deux morceaux musicaux. La première photo et le premier morceau ont été choisis par elle. La deuxième partie de l'émission sera peut-être plus perturbante pour notre invitée puisqu'elle concerne mes choix à moi. Mais je vous propose de commencer tout de suite avec la photographie d'Anna. Tu l'as déjà sous les yeux, Anna, et je vais te demander de la décrire le plus précisément possible afin que les auditeurs et les auditrices puissent l'imaginer au mieux. N'hésite pas à parler des couleurs, des détails importants, s'il y en a.
Bon, c'est une jolie journée qu'on a passée dans la montagne avec des amis et entouré de notre joli paysage, notre verre qui me fait beaucoup sentir. Et je suis très heureux quand je suis dans la montagne. Et je suis avec mon amour et mon petit amour, ma chienne aussi, et pour prendre une photo pour évoquer après un souvenir du jour. Et on était très jeunes, très jolies, je trouve, et très heureuses.
Donc sur la photo, on vous voit toutes les deux avec votre chienne Frida. C'est pour les auditeurs qui...
Oui. Et entre nous, la petite.
Ok. Et des couleurs qui ressortent ou pas?
Des couleurs?
Oui. Pas vraiment. Colores.
Oui, mais tu veux que je parle des couleurs?
Si tu veux.
Ah bon, j'avais une t-shirt rouge. J'aime beaucoup le rouge. Mm-hmm. C'est un de mes préférés. Et rouge et orange. Maintenant, j'aime beaucoup les couleurs très vivantes. Et avant, je m'habillais toujours en noir. Et maintenant, je mets quelques couleurs. Et presque toujours, c'est rouge ou jaune. Non, pas jaune, jamais.
Non, pas jaune,
jamais,
orange.
Jamais, orange, pardon. Et Martha a une soudadera, je ne sais pas
un comment. Un sweatshirt.
Ah. Et bleu, marron. Elle presque toujours s'habillait en couleur foncée.
Et pourquoi avoir choisi précisément cette photo? Que raconte-t-elle de toi?
Je ne sais pas quoi te dire. Je sais pas. J'aime beaucoup cette photo. Je l'ai toujours dans les estanterias, je sais pas.
L'étagère.
Et je la vois toujours et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que je suis très, très, très dubitative. Je ne sais pas comment dire ça.
Tu as du mal à choisir?
Beaucoup. Et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour... Et enfin, j'ai dit, c'est là. Parce que c'est Frida, encore, qui est partie il y a beaucoup, beaucoup de temps. Il y a 16 ans, je crois. Et j'aimais beaucoup.
Toutes les trois.
Oui.
Et moi, quand je regarde cette photographie, je suis saisie par le bonheur qui s'en dégage. Oui. Il y a un brin de nature avec le vert de la haie derrière. Il y a ton sweatshirt rouge, la couleur de la passion, qui ressort beaucoup. Mais surtout, il y a vos deux visages, à toi, Anna, et à ta compagne, Martha, qui reflètent pleinement, je trouve, l'insouciance de la jeunesse, la confiance dans la vie, l'amour. Votre posture aussi traduit cette sorte de légèreté avec votre chienne Frida entre vous deux, comme si, au moment précis où elle a été prise, il ne vous manquait rien. Un moment parfait, comme on le dit parfois. Alors était-ce un moment parfait, une période? Ce moment-là était-il parfait? Et plus généralement, est-ce que c'était une période de ta vie de grande félicité, de grand bonheur?
Oui, c'est comme ça, tu as pris très, très bien, oui. Et la confiance et la complicité, tout ça. Oui, c'est ça qu'on voit là.
D'accord.
C'était un moment très, très sérieux.
Et là, et dans ta vie en général, est-ce que c'était aussi une période très heureuse?
Oui, oui, tranquille. Je commençais à être plus équilibrée et je me sentais bien, plus mature, je ne sais pas.
Mature, presque, ouais.
Mature, oui. Et bien, et avec confiance dans ma vie, j'étais arrivée où je voulais. J'avais tout ce que je voulais. Pardon mon français.
C'est très bien, c'est très bien. Et sur ce cliché, on est en 1998, fin des années 90, c'est-à-dire encore au XXe siècle. L'homosexualité était un sujet assez tabou, même très tabou, en tout cas en France. Et moi, je voulais savoir comment tu l'avais vécu toi, personnellement. Est-ce que tu as souffert de discrimination? Est-ce que c'était difficile de vivre dans la société espagnole de cette fin de siècle en étant homosexuel?
Ben, pas dans mon cas, parce que je l'ai vécu avec naturalité. Je n'ai jamais dit à aucune personne, parce qu'on est agité avec... agir.
Oui.
Oui, oui. Avec totale naturalité. Je parlais de Martha. Chez moi, ils connaissaient tous. Je n'aurais jamais dit qui est-elle. Mais elle était Martha. Elle était avec moi. Elle vécu avec moi. Et avec les amis, la même chose. Avec les voisins, avec tout le monde. Pas dans le travail. Parce qu'on travaillait avec des enfants. Et ici, tu sais, je ne suis pas en France, mais ici, les enfants sont... Oh, peut-être ils vont se contagier de l'homosexualité ou quelque chose comme ça.
Oui.
Jamais dans le travail, mais avec mes copains et mes copines, surtout avec mes copines, je parlais de Martha avec naturalité. Et c'est seulement une qui m'a dit, mais c'est qui? C'est ta copine? Oui. Ah, ça y est, parce que je voulais savoir. Ah, bon.
Oui, en fait, tu ne te sens même pas forcément homosexuel. C'est juste que c'est Martha.
Oui.
Oui, donc oui, c'est même Martha. Pas un sujet, en fait.
Non, pour moi, c'est Martha. C'est
ça comme y est. Ça, ok. Oh. Parce que j'allais te demander comment tu l'avais annoncé à ta famille. Est-ce que officiellement ou naturellement, mais tu viens de le dire. Mais par contre, moi, ce qui m'intéressait aussi, et je crois que ça, je ne l'ai jamais su ou je l'ai oublié, c'est comment vous vous êtes rencontrés et c'est quoi votre début d'histoire d'amour?
Ah, ça, c'est très curieux.
Si tu as envie d'en parler.
Oh oui, oui, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Et j'avais une amie de toute la vie qui était homosexuelle. Et on disait de l'ambiente ici. Et une fois, je suis venue avec lui à Bilbao passer le week-end. Oh, bah, j'ai commencé à aller par là. Bah, j'aimais beaucoup l'ambiance. Je me trouvais très bien. Et ça y est, et j'étais revenue. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais bah, une fille me faisait... Oh, oh, qu'est-ce que je sens? Oh, il me plaît. Elle me plaît. C'est une masse. Pas plus. Bon, l'autre jour, j'ai commencé à sentir quelque chose dedans. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, mon Dieu, moi aussi. Oh! Mais bon, sans rien. Et un jour, il a surgi. Je ne sais pas comment, bah, on parlait. Et elle était amie d'une amie. Et on était ensemble. Et un jour, elle aussi, elle avait la flamme. Avec moi, je ne sais pas comment dire, je n'ai pas
oui,
de vocabulaire.
C'est très bien.
Et ça y est, j'ai commencé comme là, par là, avec elle. On n'était pas beaucoup de temps, mais très bien, très intense, très ouf, ouf. Bon, c'était très nouveau pour moi. Ben, je n'avais pas beaucoup d'expérience avec les hommes non plus.
Tu en avais eu un petit peu ou pas du
oui,
tout
oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais. Mais je n'avais pas beaucoup de chance non plus.
Ouais. C'était un signe peut-être.
Mais bon, pas avec les femmes non plus. Non. Mais bon, avec ce que j'ai voulu, oui. Et après ça, il a eu une autre. Et 300, je crois. Et c'est comme ça que j'ai connu Martha. Parce qu'elle avait une autre fiancée ou amie, ou je ne sais pas comment vous dites, ou copine. Ou,
ouais,
ou,
copine ouais.
Et elle s'était pas amie, mais elle se connaissait. Alors, dans son bar, on s'est vu et on a commencé à être amis. Et on était beaucoup ensemble, les quatre, et après avec d'autres amis. Et un jour, on nous a coupé notre relation.
Okay.
Et tous les deux, mais pas une avec l'autre. Mais j'étais laissée par ma copine et Martha aussi. Et on a commencé à être plusieurs fois.
Ensemble,
le carrequin. Ensemble, et c'est comme ça qu'un jour, sans savoir comment, on était les deux. J'avais eu un dîner avec des amis de la chorale. De la chorale. Et j'avais resté avec elle parce qu'elle venait chez moi dormir. Et c'est lié à la cocha. Et c'est comme ça.
Très bien.
Mais on était amis.
Au début.
J'avais un peu de peur parce que j'avais peur que si on faisait quelque chose après, je pouvais perdre mon ami. Et c'était mon ami à moi, très important.
Oui. Mais la flamme, vous l'aviez eue quand même la première fois que vous êtes vue ou pas? Ah oui, non, la flamme, c'était avec une autre.
Oui.
Ok, d'accord.
Avec la seconde.
Ok, ouais.
Et bon, la première aussi, oui. mais avec Martha, non. Ouais. J'avais beaucoup de peur. Oui. Elle, oui, la première nuit, elle m'a dit, et j'étais encore plus de peur, parce que j'ai dit, oh, vous, oh mon Dieu, et moi, je ne sens pas la même chose.
Oui.
C'est mon ami.
D'accord.
Mais après, petit à assez rapide aussi.
Petit à petit, mais rapidement.
Oui, oui, oui. Et ça, comme ça, 33, la semaine prochaine, on fait 33 ans.
Oui. Waouh. Et pour finir sur la photo, moi, je voudrais aussi que tu nous parles un peu de votre chienne Frida, qui semble un peu faire la connexion qui est importante, mais ça, tu l'as dit, mais qui fait un peu sur la photo la connexion entre vous deux aussi, je trouve. Et elle a eu une grande importance dans ta vie. Est-ce que c'est vraiment un rapport à cette chienne-là, à ce moment-là, ou est-ce que tu aimes les animaux?
Bon, quand j'étais petite, j'avais peur aux chiens. Et quand je suis venue ici vivre avec mes amis, en deux, et un jour, venue avec une petite chienne, parce qu'elle était femelle. Et je ne voulais pas, mais c'était moi qui venais tous les jours manger à la maison, et c'était moi qui devais la sortir, et qui rangeait tout ce qu'elle... tout ce qu'elle cassait et tout ça. Et finalement, bon, j'ai accepté. Et après, quand j'ai commencé avec Martha, c'est curieux ça, parce qu'une amie est venue chez nous. Les jours qu'on faisait un an, le carrequin, Berriro, ensemble,
oui.
Et est venue notre amie avec une petite chienne blanche, très jolie. Et j'avais pensé que c'était Martha qui avait pris pour me faire comme cadeau d'anniversaire. J'étais très émotionnée. Mais non, c'était parce qu'elle avait acheté pour offrir à sa fiancée. Mais elle devait partir en voyage une semaine. Et elle s'est demandé si nous pouvions la tenir.
La garder.
La garder une semaine. Oh, je dis, oh, oui, bien sûr. Alors elle a dit, il y avait une schnauzer preciosa en la tienda. Frida était schnauzer. Schnauzer.
C'est la race.
Schnauzer, la race.
Ok.
J'ai dit, oh, j'adore ces races-là. Allez, Martha, on va voir, on va voir. Et on est allé à ce moment-là, la voir. Et quand on l'a
récupérée
ouais. de la cache où ouais. elle était, j'ai dit, elle ne va pas rentrer encore. Non, pas jamais. Elle ne va pas entrer jamais dans une cage. Mm. On l'a pris en bras. Et bon, ça nous a unis beaucoup. Et on a eu des discussions avec aussi, au début, un peu de jalousie. Mm. Hein? Parce qu'elle faisait plus de cas une que l'autre. Si je disais, Frida, viens ici. L'autre disait, Frida, viens. Mais si tu l'appelles aussi. Elle ne va pas savoir, elle va avec toi parce que c'est moi toujours qui lui donne la nourriture, qui lui fait les petits putaditas,
quand elle avait des problèmes de yeux.
Oui, des choses comme ça, c'est moi qui le fais, c'est moi qui l'amène dans les vétérinaires, tout ça. Alors je dis, pas comme ça. Et on a eu de petits roces.
Pas des disputes, mais des petites discussions.
Ouais, mais après, tout bien. C'était ma cause, c'était à cause de moi.
Et Frida, pourquoi elle s'appelle Frida?
Frida Kahlo.
Si, je m'en doutais, bien sûr.
Oui. Et en plus, Frida Abba, une des deux filles de Abba, le groupe, une c'est Ernetta et l'autre c'est Frida.
Ça, je ne le savais pas.
Oui, la brune, c'est Anne-Frida.
Allez.
Alors, j'ai dit, oh, Frida, les deux.
Vous êtes bien dans l'étrange beauté du quotidien. Nous sommes avec Anna et nous allons maintenant découvrir son choix musical, Yolanda de Pablo Milanés.
Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Tu mano eternamente. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda, eternamente Yolanda.
Nous venons d'écouter un morceau écrit, composé et chanté par le Cubain Pablo Milanés, Yolanda, morceau écrit en 1970 au moment de la naissance de sa première fille, si je ne me trompe pas, mais sorti pour la première fois en 1982 dans l'album Acto de Fe, Yo Me Quedo. Tout d'abord, Pablo Milanés est-il pour toi un chanteur de toda la vida, comme on dit en espagnol?
Bon, oui, oui, on peut dire oui, de ma jeunesse.
Tu l'écoutes moins aujourd'hui.
Oui.
Et pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier?
Je ne sais pas. Elle est venue. Quand je pensais à une chanson, Yolanda, elle est venue comme ça.
Et tu n'as aucune idée de...
Elle est beaucoup de choses pour moi. J'aimais beaucoup ces chansons avant. Mmh. Mais après, il y a une autre chose avec Martha. Il semble que Martha, c'est tout pour moi. Et peut-être oui. Okay. Mais je suis très, très, très mauvaise avec les noms. J'oublie les noms de toutes les choses. Et des gens aussi, des gens tout proches de Martha, quelquefois aussi. Et je vais l'appeler, il ne vient pas les noms. Alors, à ce moment-là, il me vient Yolanda. Et il y a chez moi, chez mes parents, mes sœurs, tout le monde sait que c'est Yolanda. Yolanda, non. Où elle est, Yolanda? Elle est allée par là. Elle est très solitaire. Elle part beaucoup de fois marcher là. Et Yolanda, où elle est? Elle est Yolanda. Et après, si tu écoutes la lettre de la chanson,
oui.
C'est ça que je sens quand je suis avec elle aussi. Oui. La main, c'est toujours tu mano, éternellement tu mano. C'est bouf. Je me touche beaucoup.
Donc j'allais dire, ouais. Que t'évoque-t-il ce morceau? Bah tout. Enfin, le...
Tout.
Oui.
Tout. Oui. Tous les bons de ma fille.
Et bah, figure-toi que moi, je ne connaissais pas cette chanson. Ou alors, peut-être que tu me l'avais fait écouter il y a longtemps, mais je n'en avais aucun souvenir. Mais ceci dit, je n'ai pas été très surprise en la découvrant, parce que j'ai pensé à l'amour encore. Elle a sûrement un lien avec Martha.
Et, ouais.
Et on peut dire que c'est une vraie chanson d'amour inconditionnelle, une chanson très romantique. Oui. Est-ce que toi, tu te considères comme romantique?
Bon, je ne l'avais pas. Je pensais que je n'étais pas très romantique, un peu, peut-être. Mais ces nuits, quand je pensais, je dis tout le temps, je pense la même chose. Alors, va être que oui.
Je voulais savoir si tu te sentais romantique depuis toute petite. Mais bon. Pas forcément, du coup, c'est plus... Maintenant que tu prends conscience,
et peut-être j'étais, mais...
On mettait pas les mots.
Peut-être ça.
Oui, c'est ça. C'est que tu l'étais sans le savoir.
Mais aujourd'hui, j'ai pensé beaucoup, beaucoup cette nuit. Et oui, je suis très romantique. Parce que toutes les chansons qui me venaient, chantaient l'amour.
Oui.
L'amour que je sens. Pour moi, l'amour, c'est pas l'amour carnal, c'est pas l'amour romantique seulement. Oui. C'est l'amour en général, l'amour des amis, de la famille, l'amour. C'est ma base, c'est ma colonne qui me soutient.
J'allais te demander quelle était ta propre définition de l'amour. C'était ma question suivante. C'est quoi pour toi l'amour? Mais en fait, tu viens de nous le dire.
Oui.
C'est ta colonne vertébrale, c'est ta raison de vivre.
Oui.
Oui, très romantique, on peut dire, je crois.
Oui.
Mais dans le sens, pas juste amoureux, c'est du romantisme aussi, de la vision, de voir la vie et les gens autour de toi.
Même avec mes élèves, je les aimais beaucoup. Il y avait des copines qui disaient, tu ne dois pas les aimer, tu dois les éduquer. Ça, c'est pour ses parents. Je dois les aimer aussi parce qu'ils sont si petites. Je dois les aimer.
Oui.
Et je les aimais. Ils venaient avec moi, ils étaient dans mon cœur. Et encore, quand je vois des photos, parce que j'ai pris mille et mille de photos, et je les vois, celui-là, oui.
Je suis d'accord avec toi. J'ai été professeur et je ressentais exactement la même chose que toi.
Et même les plus bons et même les plus difficiles.
Après, quand j'écoute aussi, quand on écoute les paroles, la mélodie, il y a d'autres mots qui me viennent à l'esprit, comme la douceur. Mais la vulnérabilité, la fragilité aussi. On a l'impression que Pablo Milanés, il se met complètement à nu dans cette chanson. Et est-ce que ce sont des émotions, des sensations qui font partie de ton propre quotidien? Et si oui, est-ce que tu les acceptes?
Oui. 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 Quand tu es avec quelqu'un, ici on dit « pones toda la carne en el asador ». Tu es complètement vulnérable, quoi. Tu es nu, tu te desnudas, tu te desnudas con siete razones. Et tu es absolument vulnérable.
Oui.
Mais tu as confiance que cette personne-là ne va pas jamais trahir ses confiances et qu'il ne va pas utiliser toutes tes choses plus intimes que tu es là racontées pour ton mal, jamais. Mm. Au contraire, pour t'appuyer, pour être ton soutien.
Oui, donc ça veut dire que tu as trouvé les personnes autour de toi pour pouvoir vivre toutes ces émotions qu'on dit soi-disant entre guillemets négatives alors qu'elles ont autant le droit d'exister que la joie, que le rire, que tout ce qu'on veut. Et tu as pu aussi, grâce aux personnes que tu as rencontrées, exprimer tout ça.
Oui. Et c'est ça avec Martha, c'est avec quelques amis aussi, quelques familles. Pas beaucoup de monde, mais je peux te raconter que n'importe quoi. J'ai la confiance à toi. On ne se voit pas beaucoup, mais j'ai cette confiance à toi.
Oui.
Et avec mes sœurs aussi, avec quelques amis aussi. Pas beaucoup de gens, hein, je ne crois pas. Mais
non, mais
bon,
assez.
Je crois que j'ai un
autre socle.
Réseau des gens autour de moi. Pas beaucoup, mais bon.
Merci pour tous ces partages, plein d'amour, de romantisme, même un peu de douceur, on pourrait dire. Voilà déjà la première partie de l'émission « L'étrange beauté du quotidien écoulé ». Le concept veut que maintenant, nous partions d'une autre photo que j'ai cette fois-ci choisie et que tu ne connais pas. Enfin, en fait, si, que tu connais très bien, tu vas comprendre. Hop, je te la donne.
Oh.
Donc, je te la présente. Tu es en train de la découvrir en même temps que les auditeurs et les auditrices. Et le principe est le même que tout à l'heure. Tu vas essayer de décrire un peu les détails qui te semblent importants, les gens, est-ce qu'il y a des perspectives, ce qui te saute aux yeux, le lieu aussi.
Ouf, les lieux, c'est le premier. C'est Erdeven, c'est la maison des tio et la tia. Et la photo avec la famille, on était le petit, tais-toi, toi aussi, trop petite, avec le tio Théo, ton grand-père,
oui,
ton pépé. Et je m'emmotionne une autre fois. je suis allée, c'était pas ma première fois, mais je suis allée avec une amie espagnole aussi. Et il y a la famille. il manque Kika, mais il, son mari.
Elle prend la photo.
Elle prend la photo. Et c'est ma famille française. Bretonne. que j'ai toujours adoré. Et j'ai eu toujours une débilité pour quelques parties de la famille. C'est la famille française. Après, j'ai les Catalans aussi sont pour moi. Et vous, c'était très, très important pour moi. Même si on ne se voit pas très souvent, mais c'est toujours comme s'il aurait été hier. On était très, très jeunes.
Très, très jeunes.
Très, très, très. Et oui. Eva était toute petite. Elle était sous mon tonton. mon tonton. Et très, très jeune année, là. Mon Dieu. Et à cette année-là, on était Anne, Annie, Annette et Anna. Oui, à la maison d'Erdeven. Oh, je suis très sérieuse quand je vois. C'est ça aussi.
Oui.
Agueda, Pablo, Cécile, et Inès, Anne, là. Ah, je dis tout le monde.
Oh. Donc l'émotion, c'est le bonheur. Oui. Là, quand tu vois cette photo.
Oui.
Et alors moi, je te l'ai choisie pour plusieurs raisons. Cette photo, 1980, c'est une photo de famille typique de cette époque, bien sûr. Mais pour nous, elle n'a rien de classique. Elle veut même dire beaucoup. Déjà, la famille. Que pourrais-tu nous dire de la famille avec un grand F ? Quelle relation as-tu avec ta famille ou la famille au sens large, d'abord ?
Je crois que je l'ai dit. La famille, oui. Pour moi, c'est une de mes bases plus importantes. Je sais, je peux toujours compter avec la famille. J'ai une famille très unie. Et on s'aime beaucoup, même si on ne se voit pas. Et même si on ne parle pas par téléphone, je sais que je peux compter sur elle, toujours. Et je peux aller en France quand je veux. J'ai beaucoup de maisons.
Et puis, comme souvent dans nos photos de famille, se rajoute, tu l'as dit, un petit peu une correspondante allemande, une cousine espagnole, toi, une amie de la cousine espagnole, un beau mélange, je trouve, de génération et de culture. Et c'est aussi pour ça qu'elle me plaît, cette photo de groupe, je crois. Peut-être quelque chose que nos familles espagnoles et françaises ont réussi à faire, j'ai l'impression, qu'en penses-tu ? De mélanger les générations, les cultures, les amis, des amis sont mes amis, les portes ouvertes. Est-ce que tu es d'accord avec ça, soit la famille en Espagne ou...
Ah ouais, bien sûr.
Est-ce que tu saurais dire pourquoi on a réussi, ou pourquoi nos familles au-dessus de nous ont réussi à laisser ces portes-là ouvertes ?
Bon, je crois qu'ils ont fait des vrais efforts pour que la famille soit... ensemble, parce que le premier de ton papa et mon papa étaient frères qui ont été séparés très très jeunes et par la guerre en Espagne. Mon père est resté ici et Théo est parti en France. Alors on a été sans savoir rien entre eux. Ils ne savaient pas si Théo était vivant ou non pendant des années. Et quand finalement il a réussi à venir avec sa famille, et j'ai une photo que j'ai vue avec Juliette au début quand ils étaient très 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 jeunes, et après avec ses trois enfants, et je connais là, mais quand ils sont venus la première fois, bon, ça a été dans la famille une explosion de gaieté, de bonheur, Et c'est ça que je crois qu'ils ont voulu maintenir. Et ils ont fait des vrais efforts pour que toute la famille soit unie, toujours. Et je me rappelle tous les Noël, la nuit de 24, on appelait chez Théo et Juliette. Et les dernières années, c'était moi qui devais parler parce que je parlais français. Et je l'ai dit en passé. Bon, maintenant, je parle...
Tu parles très bien
francignol aussi. Mais le francignol, c'est à nous aussi. Oui. C'est une chose que... peut-être d'autres, il y a des autres qui parlent francignol aussi, mais pas notre francignol.
Non.
C'est à nous. Et nous, on continue de créer c'est, et c'est un peu también, un peu aussi Guy, qui est, qui a fait des
le lien.
Qui a fait des liens parce qu'elle aime beaucoup, elle aimait beaucoup l'Espagne, elle aimait beaucoup la famille espagnole, elle aimait mon père. Il y avait une passion entre eux qui je ne peux pas décrire.
Je crois que c'est indescriptible.
Oui, il était le fils que mon père aurait voulu. Oui. Et il n'a eu que 4 filles.
Il a eu 4 filles.
Il a eu 4 filles et il avait... son comment je te dis ça
son neveu
ah son neveu qui était pour lui bon
et comme un
je
fils.
Crois que que pour Guy c'était la même chose et il est venu beaucoup plus que sa sœur et son frère et il a essayé de que c'est
que ce fille
aussi aimait l'Espagne et la famille espagnole.
Je crois que ça a fonctionné.
Je crois qu'il a réussi. Oui.
Et pour moi, ce cliché est important aussi car il représente une fois de plus un moment authentique du quotidien, un peu comme un joyeux bordel. Comprendes? Bordel, bazar.
Ah oui, je crois.
Un joyeux bordel. En français, on dit ça, le joyeux bordel.
Okay.
Il y a plusieurs personnes qui ne regardent pas l'objectif. Il y a du mouvement sur cette photo, ça bouge un peu dans tous les sens.
Oui.
On y perçoit un jeune garçon qui voudrait être partout, sauf à devoir poser devant l'appareil.
Ouais.
Une petite fille assise sur les genoux de son grand-père qui semble un peu jalouse de sa voisine. Certaines à l'air sérieux, d'autres qui rigolent avec au centre, tu l'as dit, les deux anciens, les grands-parents, qui sont tellement heureux d'avoir leur tribu avec eux. Et ce que tu ressens, mais en fait tu l'as déjà dit, mais ce moment de joie, juste cela, on sait que dans les familles, les choses elles sont compliquées, rien n'est tout rose, mais sur ce cliché, je trouve que même s'il y a mon cousin Pablo qui fait un peu la tête, même si moi j'ai l'air jalouse, etc., c'est un pur moment de joie, je trouve. C'est un peu comme la photo que tu as choisie. On dirait un moment presque parfait.
Oui,
Oui,
pour moi aussi. J'adore ces photos-là qui est là. Le gens ne regarde pas l'objectif.
Oui.
Quand le gens bouge, et je fais, et maintenant qu'on fait, je fais plusieurs.
Oui.
Et je ne prends seulement la dernière. Je préfère les autres, toujours. Je préfère les autres quand il y a des mouvements. Et les gens, je ne sais pas comment. Oui, j'adore. Ces moments, en plus, pour moi, toutes les fois que je suis allée là-bas, on faisait la photo. Au final pas au final d'été, mais quand on allait partir, avant de partir, ou la nuit de dîner.
Du 15 août.
Oui.
C'était le 15 août.
Oui. Et on faisait toujours la photo avec tout le monde. Et j'adore ça. Oui, j'adore.
Et c'était, tu l'as dit, je crois, tout à l'heure, ton premier voyage toute seule.
Deuxième.
Toute seule?
Oui.
Sans tes parents, c'était pas la première fois?
Oui. Non, avec mes parents, je suis allée une fois. En 2001, la première fois que je suis allée, avec Kika et Paco, avec 15 ans, je suis partie avec elle quand ils s'invitaient à Mende. Et après, on est allé à Erdeven. Après, on était allé au camping avec vous quelques jours seulement parce qu'après, il avait les crises d'asthme. On est retourné à la maison. Ça. Mais c'était ma première fois. J'ai eu mon 16e
anniversaire
là. Bon, j'étais très jeune. Et ici, j'étais en train d'étudier maîtresse. Et je suis allée avec mon amie. C'était la deuxième.
Et c'était ton amie, une copine.
Non, c'est une copine. Ouais. Non, à cette époque-là, je ne pensais à rien.
Les études. Les études et vivre.
Oui.
Et du coup, là, c'est en Bretagne. Bon, ce n'est pas ton premier voyage toute seule. Je pensais que c'était
non.
Un peu la liberté de partir toute seule pour la première fois, mais non.
La peur de partir toute seule. Sans savoir parler.
Non,
parce
ça se voit pas.
Après, en plus, c'était pour apprendre. Ils sont décidés pour moi. Je ne savais rien.
Ah.
Et je suis... comment dire ça? M'intéressée.
Tu l'as su?
Je l'ai su le jour avant de partir, je crois.
Ah oui?
Oui.
Ah, ils ont aussi fait des choses comme ça.
C'est toujours les mayores, tu sais.
Oui.
Et ma mère, Kika, qui a décidé, bon, elle m'a dit, tu veux partir avec eux qui partent demain? Et j'ai dit, bon.
D'accord.
C'est comme ça. Bouf. Elle était un peu fort.
Ouais, tu m'étonnes.
Mais
c'est la Bretagne. Moi, j'aimerais que tu nous parles aussi de cette région-là, la Bretagne. Pour toi, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est pour moi, la Bretagne, oui, c'est la deuxième place de mon cœur.
Okay.
Si je n'habitais pas à Bilbao, j'aurais aimé habiter en Bretagne, à Erdeven.
À la mer.
Près de la mer. Soit ça, soit... Bon, alors, où tu habitais là aussi, c'est pas mal.
Du côté de Saint-Malo.
Oui, ce côté-là, Dinard. Bon, oui, la Bretagne, j'adore. Le menhir, les bras, tout ça. Oh, tu sais, la première fois que je suis allée, et le tio Théo m'a amené dans les alignements de Carnac. Quand on pouvait passer sans. Il n'y avait rien. Je pouvais passer. Et même, elle me disait, mais va dedans, touche. Et je dis, mais non, comment je veux. Oui, tu peux toucher. Tu as le droit de toucher. Allez, va. Moi, j'étais étonnée, j'étais maravillée.
Oui, j'étais complètement. Je trouve même plus le mot. C'est très bien dit, maravillée.
Oui,
émerveillée.
C'était comme le. Je ne sais pas comment dire. Je ne voyais que des pierres. Pour moi, c'était. J'étais avec la bouche ouverte, mais vraiment.
Vraiment.
Oh! Peut-être pour moi très, 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 très touchant.
Oui.
N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est un cadeau aussi.
Oui.
C'est un cadeau. Oh oui. Et beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Le premier voyage après Saint-Michel, beaucoup de choses. Mais...
La Bretagne.
Oui, la Bretagne. Oh, la mer. La mer, la plage. Oh, les crêpes de la tia. Oh. Oui, tout.
On va rester sur le même principe que la première partie de l'émission et on va se laisser porter par une nouvelle mélodie, sélectionnée par moi cette fois-ci. Je vous laisse découvrir, chères auditrices, chers auditeurs, comme je te laisse découvrir toi, Anna, qui j'ai choisi, car le mystère reste entier. Enfin, pour toi, il ne va pas le rester longtemps, car tu vas tout de suite comprendre que ce choix, c'était une évidence.
No.
Nous venons d'écouter Chori a Chori, chanson ici interprétée par John Baez en 1988 à Bilbao. À l'origine, c'est un poème écrit par Josean, comment ça s'est prononcé ?
Josean Arce.
Josean Arce, en 1965, que Mikel Laboa a mis en musique un soir de 1968 après l'avoir lu sur une serviette de restaurant, imprimée illégalement car il était interdit de parler basque pendant la dictature franquiste. Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre là maintenant, toi qui connais cette chanson par cœur ?
J'ai toujours une émotion très très profonde quand j'entends cette chanson-là. Je l'avais entendue, je l'avais écoutée pour première fois quand je ne parlais pas basque encore. Je ne savais pas. J'ai appris après faire ma carrière,
les études,
je suis revenue chez mes parents. Et j'ai commencé à étudier parce que c'était plus facile après pour travailler. C'est ma mère qui m'a dit, parce que quand je suis partie à Valence pour étudier, il était encore, c'était impossible d'apprendre dans une école où il n'y avait pas où étudier. Ça, ce n'était pas légal. Mm. Alors, quand je revenais en 4 ans, c'était tout changé. Il y avait l'euskaltegi pour apprendre. Et c'est ma mère qui m'a dit, tu dois aller apprendre. J'ai dit, oh, très bien, très bien. J'adore les idiomes. Alors, très bien.
Les langues.
et c'est ça, quand j'ai commencé, que je commençais à aimer plus encore. Parce que, je ne sais si tu sais, mais l'euskera, c'est une langue merveilleuse. J'adore. C'est très joli, c'est pas si compliqué que les gens disent. C'est parce que la structure, c'est différent. C'est comme l'allemand, ça décline.
Oui.
Mais quand tu comprends ça, c'est pas difficile. Les mots sont longs parce que c'est comme ça, mais l'allemand, c'est beaucoup plus pour moi. Mm. Parce qu'il n'y a que des consonnes. Des consonnes. et en euskera, il y a toujours la consonne et la voyelle. Toujours. C'est un peu fort pour prononcer, mais c'est facile, c'est comme ça. Comme tu écris, tu lis. C'est facile. Et c'est... Bon, c'est adorable. Et quand j'ai compris qu'est-ce que ces chansons disaient, j'ai été encore plus émue et plus... Bon, je pleure quelquefois quand je la chante.
Normal.
Après, et avec Martha, je commençais à la chanter pour elle, aussi. Mm. C'était très... Ce n'est pas important, mais elle aimait beaucoup. Mm. Et on chantait toujours à des voix. Et après ça, et dans les campings à Erdeven, à Kirillio, on chantait aussi les nuits après le dîner. Mm. Et je me rappelle une fois... que Patrick a été très 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 touché après avoir chanté la chanson nous deux et il voulait savoir pourquoi, qu'est-ce que nous disons pour être si ému pendant que nous chantons ça. Et on lui a expliqué et il a commencé presque à pleurer parce que son fils allait partir à étudier loin. Et il disait, je dois le laisser partir, je dois le laisser voler. Et pour moi, ça a resté aussi. Et après quand j'ai su que tu l'avais enregistré et chez toi, on l'a écouté. Et bon, ça, c'est une chose, c'est quelque chose à nous. C'est pas à moi, mais c'est à nous, à la famille française, à la famille bretonne. Et en plus, ça, quand on m'a fait la petite récopilation des vidéos et des photos pour mon anniversaire, mon 60e anniversaire. Et c'est toi et ton père qui me l'a chanté. Et bon.
Enfin, en playback, du coup. En playback. Oui, c'est vos voix dans la vidéo. Tu t'étais rendu compte, oui.
Non.
C'est Anna et Martha qu'on entend.
Ah, c'est parce que je ne reconnais pas ma voix.
Et c'est l'enregistrement du camping.
Ils font comme nous.
Non, en fait, on fait en playback. C'est vous On vous imitait, en fait. T'avais jamais...
Non. C'est parce que je connais pas ma voix enregistrée.
Et oui.
Et c'est... Elle change.
Oui.
Et celle de Martin
oui.
non plus.
Bon. Oui.
On dirait.
On réécoutera.
Dit, oh, ils font... Berdin. Igual.
Oui, ils font la même chose.
C'est la même chose.
Oh, bah, c'est normal.
Bon, parce que, elle m'a beaucoup émue. Beaucoup, beaucoup. Que vous la chantiez. Oui, j'ai dit, oh, ils ont appris. Parfait.
Bah, on a appris, on la connaît. Mais là, oui. Ce que nous, on avait envie de faire un peu drôle, mais du coup, tu le découvres maintenant, c'est qu'on faisait semblant. On...
J'aurais remarqué que Guy, quelquefois, faisait des étranges mouvements
des bouches.
Des bouches. Mais j'ai déjà même le son. Mais pareil. Le son, c'est le même.
On réécoutera.
Ouais.
Mais moi, du coup, là, je ne pouvais pas, évidemment, faire cette interview avec toi sans évoquer le basque, ta langue, et le Pays basque, ta région de cœur. C'est finalement la région, la ville, Bilbao, que tu as choisie, la langue que tu as choisie.
Oui.
C'est ça, c'est vraiment... tu nous l'as un peu dit, il y a beaucoup de choses qui étaient un peu décidées par les adultes, les plus grands.
Oui.
Et ça, c'est vraiment... C'est ton choix. Comment tu le dis ? Quelle place ça a dans ta vie, le Pays basque, le basque ?
Oh.
Et Bilbao,
bon,
peut-être.
Bon, même. Bon, c'est très important. Je dis, si je ne pourrais pas vivre ici, je vivrais là, mais pas dans une autre place. Pas en Andalousie, en Galice, en... non, ici. Mm. Et à Bilbao, si
oui.
je ne pouvais pas Bilbao, pas mon village.
Oui, c'est même presque plus Bilbao que le Pays basque.
Oui, aussi, mais Bilbao.
Oui, c'est parce ça. C'est, oui, oui.
Bilbao, c'est pour moi. Et pour moi, dès que je suis petite, dès la première fois que je suis venue ici avec ma maman, parce que Paqui, une cousine, venait, parce qu'elle venait en bateau, je suis venue avec maman. Pour la voir, on est venu en train et j'étais très contente avec ma mère pour moi toute seule. Mm. Et je n'ai jamais eu ma mère seulement pour moi. Et cette fois, c'était seulement moi avec ma mère dans le train. Je suis vécu. Oh, je peux presque penser l'année parce que c'était l'année de Gwendoline, Julio Iglesias, qui a chanté Gwendoline à Eurovision. Et je suis venu tout le voyage, c'était une heure et demie. Mm. Et à cette époque-là, en train de chanter Gwendoline, pauvre des autres passagers. Et je me rappelle comment on s'est arrêté dans un pont, il y a plusieurs, tu sais, dans la Ria, et j'ai resté en train de regarder l'eau, et il m'a tiré tellement. Je me suis dit, oh, waouh, j'adore ça. Et à ce moment-là, la Ria était... Asquerosa, dégueulasse, parce qu'ils sentaient mal à cause de l'industrie qui avait tout ça, et c'était sale. Mais il y avait quelque chose là qui m'a attrapée.
Depuis toute petite.
Oui.
Et pour finir cet entretien, je voulais aussi évoquer avec toi les années de franquisme, car cette chanson est devenue aussi un hymne de résistance contre cette dictature. Et je me demandais, d'après toi, ce que ça impliquait pour la famille espagnole d'avoir un fils, un frère, donc mon grand-père, qui lui a choisi l'exil quand tout le monde a décidé de... ou pas décidé, je ne sais pas. En tout cas, toute la famille espagnole est restée, sauf ce fils-là, ce frère-là qui est parti. Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi dans la vie, même avant ta naissance, dans cette construction de famille où il manquait un pion presque ?
Ah, pour moi, il était un héros.
Oui.
Parce qu'il était parti pour la répression qu'il y avait. Partait dans le village, le petit village où il s'était. Il y avait, je crois, la partie la plus grande des gens, qui est très petite, mais il y avait beaucoup de gens de droite. Et il était de gauche, et bueno, la famille, et mon grand-père aussi. Et je rappelle qu'il m'a raconté de très, très petite qu'il avait fait une pintada. Et il avait mis quelque chose... contre le franquisme, contre les...
Et... Au mur ou quelque chose comme ça?
Oui, oui, oui. Il avait écrit quelque chose. Et après, quelqu'un a... pas
a
en
dénoncé.
Espagnol, anglais, a dénoncé. Mm. Même en espagnol, je ne trouve pas. Et on est allé chercher les grands-parents parce qu'il était fui à ce moment-là.
Oui,
yeah.
Oui.
Il avait
fui. Fui, oui, il était parti.
Il était parti. Et à cause de ça. Et on apprend on a pris... les grands-parents, et on leur fait essuyer, borrar,
Effacer.
Avec la langue.
Ah, je ne savais pas ça. Okay. Ouais.
Et pendant ça, on le pensait dans les fesses. Regarde, qu'est-ce qu'a fait ton fils. Et ça, j'ai ici, que j'étais petite, mon père racontait presque en train de pleurer. C'est pour il était très, très fort, ça.
Oui, oui.
Et
oui.
J'ai connu l'abuelito qui était si doux, si doux. Et je imaginais tout ça à ces personnes si bonnes, si doux. Bon. Et pour moi, c'était un héros qui avait finalement avait pas gagné les autres, mais avait
trompé
les autres. Qui avait arrivé partir et les laisser sans les rencontrer. Je sais pas si je dis
non,
bien.
Non, là j'ai du mal à comprendre.
Je te dis en espagnol. Et consiguió eludirles, engañarles y huir sin que le pudieran coger.
Oui, et tu parles des franquistes.
Oui.
C'est qu'il a réussi à fuir.
Pour moi, c'était un
sans
héros.
Se faire prendre.
Pour mon père, c'était un héros. Pour toute la famille.
Il était jeune en plus. Il avait 16 ans.
Je crois, ouais, 16. Ouais.
Oui, quand on y pense aujourd'hui.
Oui.
Et toi-même, tu as quand même connu les dernières années de dictature jusqu'à tes 14 ans à peu près, je pense. 75
sais, non, plus. Parce que quand il est mort, quand il était mort, j'étais en train d'étudier premier, deuxième, boup.
C'est pas 75
mais 14, 15.
Oui, mais c'est pas l'année. Il me semble que c'est 75, la mort de Franco.
Oui, peut-être, oui.
Ouais, ça, oui, à peu près. 14-15, bon,
oui.
Et comment on se construit quand on grandit dans un pays totalitaire? Parce que même si on dit que c'était moins dur, entre guillemets, les dernières années de franquisme, tu as quand même grandi, 14 ans, dans un pays totalitaire. Et comment on se construit avec ça?
Avec des autorépressions, autocontrôle.
Oui, oui.
Et chez nous, on disait toujours, ça, on parle seulement à la maison, on ne peut pas dire rien dehors, on ne peut pas parler de ces choses-là. Tu ne dis jamais ton opinion dehors. Tu dois être toujours pas très haut, pas très bas, au milieu, pas destaqué, jamais. Et des choses comme ça, c'est ça que j'ai appris. Et bon, on voyait des choses, mais j'étais très jeune aussi. Maintenant, je pense, mais tout ça a passé quand j'étais consciente, bien, mais... J'ai vu passer, je crois que j'ai laissé passer pour être tranquille. Je
pour
sais pas, parce
vivre.
Que je ne comprenais pas très bien.
Oui.
Je ne sais pas. Je sais pas comment dire. Je crois que mieux que mes sœurs et Olga et Bego, elles sont 3-4 ans
de plus
que moi. Oui. Et elles sont plus conscientes de ça. Et après, oui, après était un peu de marginalisation contre les immigrantes, les immigrants. Et on se sentait moins que les Basques purs. Et ça, je le sentis comme mes sœurs. Je suis, comme avec ma homosexualité, je suis une femme félice.
Oui. C'est ta nature profonde.
Oui, je crois. Je crois que c'est mon option.
Ta force.
Oui.
Ta force, ouais.
Oui. Parce que j'étais la troisième aussi. C'est les autres qui savaient faire tout. Et moi, j'étais la toute petite qui ne pouvait rien faire. Et elle me disait, « Calla, tu calla. Eh. » Eres pequeña, no te enteras de nada. Comme ça. Alors, j'ai cru toujours que no me enteraba. Et en plus, je n'entendais pas bien.
Oui.
Et je ne le savais pas. Alors, je me sentais moins, toujours.
Moins que les autres.
Ouais. Oui. Alors, j'ai essayé d'être très, très discrète, et pour que personne ne me regarde. Et que nadie reparara en mí, que personne ne reparait à moi. Et mais juger, que me juzgaran.
Pour qu'on ne te juge pas.
Et maintenant, tu sais, je ne suis pas du tout discrète.
Non, mais tu as choisi autre. Ouais, ouais. Un peu le soleil, un peu le rire, beaucoup, les blagues.
Ouais. C'est l'humeur qui m'a sauvée.
L'humour
qui m'a toujours sauvée.
Bah, je trouve que c'est une belle façon de terminer l'interview. Enfin, on n'a pas tout à fait terminé parce que tu vas nous chanter ou lire quelque chose, comme
je
tu veux.
Je vais te dire une chose. Tu sais quelle est la chanson que j'avais élue?
Bah, celle-là, non? Chori.
Oui,
Chori à Chori.
Ouais,
j'en étais sûre hier.
Oui, j'allais te proposer de la chanter ensemble. Mais j'avais élu... Et notre aussi, un cas où tu aurais l'idée de l'utiliser avant.
Comme tu veux.
Alors,
Laquelle tu as envie de chanter?
Peut-être serait parfait finir sur tous les deux ensemble.
Il faut que je trouve les paroles alors.
Si tu as envie, sinon j'ai une autre de Silvio Rodriguez. L'amour aussi, l'amour, te amaré, preciosa.
Non, mais on peut essayer. On peut essayer.
Mais je crois que c'est joli finir les deux ensemble.
Oui.
Allez.
On ne fait pas les choses à moitié chez les Munoz.
Tu fais la haute.
Si j'arrive.
Moi, je fais la basse.
On va essayer.
Egoa que bakibanizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Egoa que bakibanizkion neria izango zen etzuen alde egingo. Baina norela etzen gehiago txoria izango. Baina norela etzen gehiago txoria izango. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite.
Que bien, non?
Parfait! Sans essayer.
Sans entraînement, il faut le dire, il faut le dire. Eh bien, merci. Merci. Du coup, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson.
Merci à toi.
Donc moi, je te remercie d'avoir laissé entrer dans ta cuisine tout le matériel de Syllab afin d'écouter ton histoire, bien remplie de tout ce qui te fait respirer, de tout ce que tu aimes. Je remercie aussi Thibaut pour la création du générique et Isa pour avoir prêté sa voix. Merci à Romane qui a donné un petit coup de main à la technique en amont. Et nous nous donnons rendez-vous très très vite pour une autre étrange histoire de vie à découvrir. Au revoir Anna.
Au revoir Eva.
Et je vous dis au revoir chères auditrices.